langage, de la manifestation, de l'usage de la fonction, de l'expression, de la pensée. Le phonème du langage, de la manifestation, de l'usage, de la fonction, de l'expression. La production du phonème du langage, de la manifestation, de l'usage, de la fonction. L'organe de la production du phonème du langage, de la manifestation, de l'usage. La voix de l'organe de la production du phonème du langage, de la manifestation. Le son de la voix de l'organe de la production du phonème du langage. L'articulation du son de la voix de l'organe de la production du phonème. Le tégument de l'articulation du son de la voix de l'organe de la production. La membrane du tégument de l'articulation du son de la voix de l'organe. Le mouvement de la membrane du tégument de l'articulation du son de la voix. La transmission du mouvement de la membrane du tégument de l'articulation du son. La passation de la transmission du mouvement de la membrane du tégument de l'articulation. Le pouvoir de la passation de la transmission du mouvement de la membrane du tégument. Le fondé du pouvoir de la passation de la transmission du mouvement de la membrane. Le contrat du fondé du pouvoir de la passation de la transmission du mouvement. La société du contrat du fondé du pouvoir de la passation de la transmission. Le phénomène de la société du contrat du fondé du pouvoir de la passation. L'atmosphère du phénomène de la société du contrat du fondé du pouvoir. Le météore de l'atmosphère du phénomène de la société du contrat du fondé. La trombe du météore. De l'atmosphère du phénomène de la société du contrat, le nuage de la trombe du météore de l'atmosphère du phénomène de la société, la masse du nuage de la trombe du météore de l'atmosphère du phénomène, la culture de la masse du nuage de la trombe du météore de l'atmosphère, la rotation de la culture de la masse du nuage de la trombe du météore, l'assolement de la rotation de la culture de la masse du nuage de la trombe, la jachère de l'assolement de la rotation de la culture de la masse du nuage, le sol de la jachère de l'assolement de la rotation de la culture de la masse, la fertilité du sol de la jachère de l'assolement de la rotation de la culture, l'engrais de la fertilité du sol de la jachère de l'assolement de la rotation, l'amendement de l'engrais de la fertilité du sol de la jachère de l'assolement, le texte de l'amendement de l'engrais de la fertilité du sol de la jachère, la modification du texte de l'amendement de l'engrais de la fertilité du sol, la délibération de la modification du texte de l'amendement de l'engrais de la fertilité, l'assemblée de la délibération de la modification du texte de l'amendement de l'engrais, le couloir de l'assemblée de la délibération de la modification du texte de l'amendement, l'intrigue du couloir de l'assemblée de la délibération de la modification du texte. Le nœud de l'intrigue du couloir de l'assemblée de la délibération de la modification. La corde du nœud de l'intrigue du couloir de l'assemblée de la délibération. Le linge de la corde du nœud de l'intrigue du couloir de l'assemblée. L'étendage du linge de la corde du nœud de l'intrigue du couloir. La pince de l'étendage du linge de la corde du nœud de l'intrigue. La dissection de la pince de l'étendage du linge de la corde du nœud. La table de la dissection de la pince de l'étendage du linge de la corde.
Michel Métail, vous avez commencé à écrire le poème infini dont on vient d'entendre un extrait, appelé également les compléments du nom, au début des années 70, à Vienne, où à l'époque vous faisiez des études d'allemand sur les rapports du texte-musique. Et c'est là d'ailleurs, on pourra en parler plus tard, que vous découvrez le travail du compositeur Stockhausen. Pendant de longues années, vous avez refusé de publier des livres ou de publier en revue, en préférant des publications orales. C'est l'idée d'écriture comme composition, du texte partition et aussi de la projection de la lettre, du mot, de la phrase, peut-être dans l'espace sonore, puis plus tard dans l'espace sonore et visuel qui représente pour vous, comme vous l'écrivez et le dites, le stade ultime de l'écriture. Vous aimez vous retrouver au lieu de croisement de divers domaines, de la langue, du sonore et du visuel, du poétique, du musical et du plastique. Quelques années après Vienne, c'est à la radio, grâce au producteur et journaliste Georges Charbonnier sur France Culture, que vous avez fait votre première lecture. Vous avez également conduit par la suite des émissions sur la poésie allemande et autrichienne. C'est la découverte du micro et de la voix. Votre première lecture, par la suite, dans un espace public, c'était pour la Biennale de Paris, organisée par une personne bien connue de l'atelier de création radiophonique Alain Truta. Puis en 1975, vous rencontrez Raymond Queneau et c'est sur la proposition de Georges Perec que vous rentrez à l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Donc vous découvrez à ce moment-là, ou un peu après, le milieu de la poésie sonore et visuelle, Bernard Hetzig, François Dufresne, Henri Chopin, Pierre Garnier, Jean-François Bory, etc. Et vous avez aussi étudié, je pense que c'est une chose importante à dire, à l'université de Vincennes, la mythique université de Vincennes, l'électroacoustique, et fait du travail aussi sur l'improvisation. Et plus tard, vous continuez à étudier et vous faites une thèse sur la poésie ancienne chinoise. Donc vous décidez de vous éloigner de l'Oulipo en 98, date à laquelle vous mettez enfin à vouloir publier des livres dans diverses maisons d'édition, comme le Théâtre Typographique ou les éditions Tarabuste. Je reviens maintenant au début d'un poème sans fin, le poème infini, et je voudrais que vous nous parliez de ce poème, de ses débuts, et peut-être, c'est le principe de l'émission, l'idée qu'on voulait avoir pour cette émission, des musiques que vous pourriez associé à ce poème. Comment vient l'idée d'un tel poème? Comment est-il possible d'écrire un poème infini?
Alors donc j'étais partie avec une bourse du gouvernement autrichien pour un séjour d'un an à Vienne et j'étais inscrite au conservatoire de musique là-bas où j'ai donc fait de la musique électroacoustique. Et l'idée, c'est que quand on étudie la langue allemande, on sait que dans cette langue, il y a la possibilité de former des noms condensés. C'est un seul nom, mais qui se traduira en français par un complément de nom. Donc c'est très, très agglutinant en allemand. Et il y a une phrase, quand on étudie l'allemand, qu'on cite toujours, enfin un mot qu'on cite, c'est « Der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän », c'est-à-dire le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Et donc c'est ce genre de phrase que répètent aussi les enfants, parce que, bon, évidemment, elle a une connotation amusante. Et je connaissais cette phrase-là pour l'avoir entendue au cours de mes études d'allemand. Et quand je suis arrivée à Vienne, évidemment, j'ai commencé à me promener dans la ville et à aller au bord du Danube. Et j'ai découvert que cette compagnie existait, des voyages en bateau à vapeur du Danube, elle existait réellement. Et ça a fait tilt dans mon esprit tout de suite parce que je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à écrire quelque chose. Parce que je me suis dit, j'ai commencé d'ailleurs ce texte, j'ai commencé à l'écrire en allemand. Et donc c'était alors « Der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, der Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän Mütze », also die. C'est-à-dire la casquette du capitaine, etc. Et donc j'ai fait comme ça une centaine de vers en allemand, mais qui n'étaient pas enfin des vers à proprement parler, qui étaient une succession de noms composés de 6 éléments. Et il se trouve que j'étais avec un ami trompettiste qui travaillait avec Stockhausen et j'ai assisté à des répétitions au cours desquelles Stockhausen expliquait la construction de certaines de ces pièces musicales qui étaient enregistrées à ce moment-là. Et je me suis dit, mais vraiment, avec le langage, on doit pouvoir faire des choses pareilles. Je ne connaissais rien de la poésie contemporaine à ce moment-là, parce que quand on fait des études, malheureusement, surtout dans les années 70, les enseignants n'étaient pas très très portés, même à Vincennes, sur les choses de l'extrême contemporain. Et donc, je suis partie tout de suite sur cette idée d'une construction musicale, enfin, à la façon d'un musicien. Et notamment, Stockhausen avait employé quelque chose, un terme en allemand, Einschub, c'est-à-dire un peu insertion, disons. C'est-à-dire qu'il avait un déroulement musical qui était perturbé de temps en temps par l'insertion d'un élément complètement hétérogène. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête, à la fois dans les modes de lecture ou dans des constructions. Et il se trouve également que dans ces années, avant de partir à Vienne, j'avais assisté en France aussi à des concerts, au premier concert des répétitifs américains, avec des amis, le groupe du GERM, notamment avec Pierre Marietan, le groupe d'études et de réalisation musicale, qui avaient été les premiers à jouer en France, Steve Reich, Lamonté Young et Terry Riley. Et ils avaient notamment fait un enregistrement de INSEE de Terry Riley. Et donc ce groupe de musiciens était connu sous le nom de répétitif. Et leur principe était d'avoir généralement une cellule musicale qui était répétée un certain nombre de fois et qui se transformait peu à peu. Et notamment la pièce INSEE, qui veut dire en do majeur, qui est construite à partir de modules rythmiques. Donc c'est une pièce complètement ouverte, pour autant d'instrumentistes que l'on veut. Et elle a une construction, bon, qui n'est pas infinie, mais je veux dire, le déroulement peut se situer entre 45 minutes et 90 minutes en général. Et donc, cette idée de la modulation a été très très importante, de la modulation musicale aussi, hein. On passe d'un élément à un autre progressivement. Et dans ce que j'ai lu au début, j'appelle modulation le passage à partir d'un mot, quand on a un mot qui permet d'aller dans différents champs sémantiques. Parce que le mot est polysémique, parce qu'il y a un sens propre et un sens figuré. Lorsque je dis la bouche, bon, je vais introduire la bouche qui va être la bouche humaine, on peut imaginer les dents, le palais, le voile du palais, etc. Et d'un seul coup, je peux aller sur l'égout, la bouche d'égout. Et donc là, j'ai un mot qui sert de charnière, qui nous permet d'aller dans différents champs sémantiques. Exactement comme en musique, on a des accords, même dans la musique classique, on a des accords qui permettent la modulation, parce qu'ils permettent de conduire dans différentes modalités. Donc c'est pour ça que je dis que la musique a joué un très très grand rôle finalement dans ma construction, parce que j'ai d'abord connu la musique contemporaine avant de connaître la poésie contemporaine, et j'ai souvent appliqué des principes musicaux à la construction de mes textes. Alors on peut peut-être écouter un extrait de Terry Riley, de INSEE. Alors la pièce date de 1964, et là j'ai apporté aujourd'hui un enregistrement de 68 dans lequel Terry Riley joue lui-même.
Thank you.
dans ce poème infini, comment arriver à composer un poème infini dans un temps fini, le temps d'une vie, je suppose, donc infini dans un espace temporel délimité. Comment trouver tous ces matériaux? Comment pouvoir nourrir ce temps de composition, cette composition?
Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais commencé à le faire en allemand, et comme en allemand, c'était à chaque fois un seul mot, et quand j'ai retrouvé cet ami qui jouait avec Stockhausen, comme il ne parlait pas allemand, je lui ai traduit en français. Et finalement, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus intéressant en français, puisqu'en français, ça donne ce que j'appelle aujourd'hui un vers, puisqu'ils sont tous identiques, ils ont tous six mots. Ça donne un vers de six mots, dont le premier mot est, disons, sujet, et tous les autres sont des compléments de nom. Et donc, ça donnait, à partir de la phrase initiale, le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Et donc, mon idée a été d'introduire un mot nouveau à chaque vers. Et donc, au bout de six vers, en fait, j'avais perdu tous les mots de départ. Et à partir de là, je me suis dit, on peut raconter une histoire. L'histoire que j'ai racontée, c'est l'histoire de la langue, en fait. C'est-à-dire, c'est partir à l'exploration de tous les mots existants avec cette idéal utopique, on était facilement utopique dans les années 70, donc avec cette utopie de se dire je vais employer tous les mots existants, des langues mortes, des langues vivantes, des langues, des dialectes, des langues techniques. Et une autre idée très très importante qui est, bon, aujourd'hui évidemment quelque chose de plus, qui est un lieu commun aujourd'hui, mais c'est de dire qu'il n'y a pas de mots qui sont poétiques. Je veux dire, c'est le contexte et ce qu'on en fait, mais bon, je veux dire, c'est une idée qu'on a bien assimilée depuis. Mais donc c'était cela, c'est un poème, je dirais un poème radical sur la langue. Alors il y a des passages dans différentes langues, dans les langues que je parle, il y a des passages aussi en sigle, parce qu'il y a des langues comme ça dans la langue, donc un sigle, on va employer un sigle tout seul dans une phrase normalement construite, ça va passer si d'un seul coup on ne fait plus des phrases qu'avec des sigles, on débouche sur quelque chose de complètement différent. Pareil avec les abréviations, quand on voit des abréviations dans un dictionnaire, gramme pour grammaire ou des choses comme ça, et si d'un seul coup on fait des accumulations, c'est aussi un principe accumulatif d'une certaine façon. Alors il y a beaucoup de passages dans des dialectes. J'ai aussi écrit un livre de 2888 vers, alors en allemand, mais en reprenant la structure française. C'est-à-dire, j'ai pas repris la structure en allemand du mot agglutiné, mais encore la séparation en six mots. Donc la syntaxe est française, mais les mots sont allemands. Et 2888 vers, j'ai écrit ça pour le 30e anniversaire du poème. Parce que c'est la longueur totale du Danube. Et le Danube reste aussi un modèle au niveau de la lecture. J'ai souvent fait des lectures, quand je fais des lectures d'une heure, par exemple, je calque ma lecture sur le parcours du Danube qui va sortir en tant que source. Donc je fais avec la voix des bruits qui imitent un petit peu des gouttes d'eau. Le surgissement de l'eau, et je vais comme ça jusqu'au delta. Et en général, quand j'arrive au delta, puisque c'est le mélange des eaux, c'est aussi le mélange des langues, et j'ai une partie qui est préenregistrée sur CD et ma voix se mêle avec, donc il y a une sorte de polyphonie qui intervient pour le delta. Il y a le passage des portes de fer, bon, qui va être lu avec beaucoup de violence. Donc quand j'ai réfléchi à un titre pour cette émission que j'ai proposé en bitus, c'est l'ambitus de la voix, parce que c'est justement d'essayer d'exploiter la voix depuis ses plus infimes manifestations, et qui sont mises en valeur par un micro. Donc je lis toujours avec un micro, c'est toujours une lecture avec un micro, le micro étant utilisé comme un instrument. Ça n'a rien à voir. Alors quelquefois, c'est drôle, puisque bon, avec mes publications orales, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de lectures, et quand je demande à l'avance, j'envoie une fiche technique, on me dit « Mais vous savez, il n'y a pas besoin de micro, la salle est petite. » Et j'essaye d'expliquer aux gens que ça n'a rien à voir, que le micro peut être un instrument. Alors après, la lecture, les gens comprennent. Mais c'est pas toujours facile d'obtenir un micro dans une petite salle. Il y a des réticences parfois. Et bon, le fait que j'ai commencé, que ma toute première manifestation, disons publique, enfin entre guillemets, était de la radio sur France Culture, ce contact, ce premier contact avec le micro, qui était un micro d'excellente qualité, qui évidemment prenait les souffles, prenait les moindres choses, ça a été pour moi déterminant. Évidemment dans mon orientation de la lecture publique orale avec micro.
Ce qui vous plaisait dans l'expérience radiophonique, c'était un instant présent.
Oui, comme... c'est un instant présent et je trouve que le micro rend très très bien la sensibilité de la voix. Et bon, il est vrai que quand on lit un texte, quand on travaille des textes, la poésie est quand même une affaire aussi toujours de rythme, au-delà, sans parler du contenu, mais je veux dire même la poésie classique est essentiellement aussi une question de rythme. Et le rythme, ça passe quand même par quelque chose, par un élément qui doit être vivant quand même. Et je pense que la voix, bon, on voit aujourd'hui, on constate que de nombreux auteurs lisent leurs textes, et c'est vrai que c'est très précieux. Bon, quand je lis un livre de Jacques Roubaud, bon, qui est un poète que j'apprécie énormément et que je connais depuis longtemps, j'entends le son de sa voix. Je veux dire, le son de sa voix est imprimé pour moi aussi au travers des pages. François Dufresne, bon, qui est mort depuis longtemps maintenant, mais personne n'ose lire les textes de François Dufresne, parce qu'il faut qu'une génération passe, sans doute, pour qu'on oublie la façon qu'il avait de lire les textes et que pour quelqu'un d'autre s'en empare et ose se confronter à cela. Mais tous ceux qui ont été ses amis, ses proches, qui ont lu avec lui pendant des années, personne n'ose lire ses textes, parce qu'il avait une façon tellement personnelle qui se surajoutait au contenu même du texte. Alors évidemment, il faudra oublier ce passage-là pour que les œuvres survivent à leurs auteurs, bien évidemment. Bon, de toute façon, on a aujourd'hui la chance d'avoir des enregistrements, des témoignages, des films, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un élément vivant, il y a un élément de présence qui est très très important à travers la lecture. Et bon, moi, c'est ce que j'ai recherché. Et ce que l'on reçoit en retour quand on fait des lectures publiques comme ça, je vois quand je fais des lectures d'une heure. Je veux dire, quand les gens, on sent l'attention des gens, l'attention du public, et c'est quelque chose qu'on reçoit en retour. Et c'est une qualité de silence très très particulière. La qualité de l'écoute du public, c'est une chose très particulière. Et c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer. Alors sinon, par rapport à l'infinité, effectivement, ma durée de vie apparemment limitée, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais j'ai déjà prévu quel serait le dernier vers du poème, puisque j'ai la chance d'avoir un nom de famille qui est dans le dictionnaire. Le métal, c'est un nom commun qui désigne un alliage métallique. Donc, je sais que ce sera le dernier vers, et après, si quelqu'un a envie de continuer pour apporter sa part à l'infini.
Et vous avez combien de pages déjà décrites alors dans le poème infini?
Ça se compte pas en pages, ça se compte en vers, puisque chaque...
Ah oui,
bon, alors, mais j'ai compté pendant très longtemps, j'en étais en français à plus de 20 000, 20 ou 25 000. Et maintenant, je pense que c'est un petit peu depuis que je me suis mise, depuis une dizaine d'années où je me suis mise à l'informatique, j'ai une vision plutôt en 3D du poème. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Enfin, jusqu'il y a une dizaine d'années à peu près, lorsque je l'écrivais, j'employais un mot, je l'introduisais pour une fois et je tiens un fichier. Et donc, le mot n'était jamais réemployé une deuxième fois. J'emploie la table une fois, le mot ne revient pas une deuxième fois. Et maintenant, j'ai eu une vision plus en 3D, plus en réseau, c'est-à-dire avec des mots qui sont des points de connexion et qui peuvent partir dans d'autres directions. Et donc, avec des passages. Par exemple, là, j'ai lu un extrait d'un passage que j'ai écrit indépendamment de la longueur même, du déroulement même du poème, qui est entre le langage et la langue. Et donc, ça se déploie entre ces deux mots-là, un mot de départ et un mot d'arrivée. Alors, bon, je ne suis pas très systématique là-dessus, parce qu'évidemment, je pense finalement que je ne souhaite pas lui donner une forme définitive qui serait publiable et qui serait 20 000 vers. Bon, je vais publier des fragments comme ça à l'occasion, comme pour une occasion précise. Par exemple, là, j'ai un projet, mais qui est aussi en allemand, par rapport aux différentes langues qui bordent le Danube, des pays riverains du Danube. Et je crois que c'est quelque chose qui suit ma vie, et puis voilà, et c'est un peu... Ça doit évoluer, je veux dire, je ne peux pas rester sur une idée que j'ai eue en 1972. Je crois que ça évolue aussi avec la façon, bon, parce qu'il y a aussi les autres livres que j'ai écrits depuis, un autre rapport, peut-être un autre rapport au temps, un autre rapport à la langue, un autre rapport...
Mais vous n'imaginez pas faire une lecture intégrale du texte?
Si, j'ai déjà pensé.
Par exemple ici, à Radio Grenouille, je suis certain que
24
ça plairait à Marc Voiry, au moins 24 heures, ou peut-être plus, peut-être 2 ou 3 journées.
Pour un jour de grève, je propose ça pour un jour de grève, une lecture de 24 heures. Bon, j'ai fait des lectures une heure et demie, mais j'ai toujours l'intention, oui, effectivement, de faire une très grande lecture, au besoin qu'il soit relayé même par
un... une vraie émission, enfin une vraie création radiophonique.
Oui, ça aussi.
Un monstre radiophonique.
Un monstre, voilà.
Avec des lectures, une lecture qui pourrait s'arrêter de temps en temps et un montage radiophonique.
Relayé par des pré-enregistrements aussi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce texte-là, il y a des passages qui fonctionnent avec des pré-enregistrements de différentes natures, mais aussi parfois des projections de diapositives. Bon, alors c'était un vieux média. Évidemment, aujourd'hui, je fais autrement, mais au début, j'ai fait par exemple, ça m'avait beaucoup intéressé, de ce rapport, je travaille beaucoup le rapport entre le texte et l'image et le texte et le son. J'aime bien être à cheval toujours comme ça sur deux domaines. Et j'avais remarqué, en me promenant dans la rue, les enseignes de magasins auxquelles il manquait une lettre. Et bon, l'œil, même il ne reste quelquefois que 2 lettres sur une enseigne, et l'œil complète tout de suite, on comprend de quoi il s'agissait. Si on lit ces lettres restantes comme un mot, à ce moment-là, l'oreille ne fait pas, elle, ce travail-là. Et donc, on obtient une sorte de langue monstrueuse. Et j'ai donc écrit un passage où j'ai relevé et photographié des enseignes sur lesquelles il manquait des lettres. Et bon, par exemple, si je dis hôtel, il va manquer le O à hôtel. Mais si je le prononce comme un mot, ça va faire tel. Et donc, en accumulant les mots comme ça, ça donne une espèce de poème phonétique. Pendant qu'il y a des mots qui sont projetés. Alors, ils ne sont pas dans le même ordre, justement, pour pas que ce soit simplement une illustration. Mais on s'aperçoit toujours que l'œil complète, et alors que l'oreille ne complète pas, ce qui est un phénomène assez intéressant aussi, hein, puisqu'on rapproche les lettres, finalement. Et donc, c'est quelque chose de très, très sonore. Bon, je ne veux pas dire dadaïsme, mais enfin, ça pourrait se rapprocher un petit peu de ces poèmes comme ça, où on perd complètement le sens et on n'a plus qu'une espèce de monstruosité de la langue. Avec des choses imprononçables, des successions de consonnes, des choses comme ça. Une autre musique, peut-être à faire entendre, une musique de Pierre Barbeau, qui a été un des premiers compositeurs à faire en France de la musique algorithmique. Il a donc travaillé d'abord à partir de l'annuaire avant qu'il dispose d'ordinateurs, de l'annuaire pour avoir des séries aléatoires de chiffres, et ensuite évidemment avec l'ordinateur. Alors on peut écouter une pièce qu'il a composée, enfin qu'il a fait composer par la machine en 1968 et qui s'appelle Mu Joken, et dans laquelle il ne retient que 2 paramètres, la hauteur et la durée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de caractère, donc hauteur et durée. Thank you. La dimension de la grandeur de la nature, de l'avantage, de l'atout du jeu. La proportion de la dimension de la grandeur de la nature, de l'avantage, de l'atout. L'expert de la proportion de la dimension de la grandeur de la nature, de l'avantage. La matière de l'expert de la proportion de la dimension de la grandeur de la nature. Le complément de la matière de l'expert de la proportion de la dimension de la grandeur. L'information du complément de la matière de l'expert de la proportion de la dimension. Le traitement de l'information du complément de la matière de l'expert de la proportion. La faveur du traitement de l'information du complément de la matière de l'expert. Le public de la faveur du traitement de l'information du complément de la matière. Le salut du public de la faveur du traitement de l'information du complément, la planche du salut du public de la faveur du traitement de l'information, le pain de la planche du salut du public de la faveur du traitement, la mie du pain de la planche du salut du public de la faveur, la bouchée de la mie du pain de la planche du salut du public, la mastication de la bouchée de la mie du pain de la planche du salut, la dent de la mastication de la bouchée de la mie du pain de la planche, le maxillaire de la dent de la mastication de la bouchée de la mie du pain, la mâchoire du maxillaire de la dent de la mastication de la bouchée de la mie, la contraction de la mâchoire du maxillaire de la dent de la mastication de la bouchée, le muscle de la contraction de la mâchoire du maxillaire de la dent de la mastication, la langue du muscle de la contraction de la mâchoire du maxillaire de la tuméfaction, de la langue du muscle de la constriction de la mâchoire du maxillaire de la dilatation de la tumeur, de la langue du muscle de la constriction de la mâchoire, de la langue du muscle de la constriction de la mâchoire, de la langue du muscle de la constriction de la langue.
Michel Métail, donc après ou avant ça, vous êtes intéressé au X.
Alors le X, oui, c'est une aventure aussi, comme ça, par attention à la langue. Je consultais le vieux dictionnaire de Furetière du XVIIe siècle, et je sais pas. Je me souviens plus pour quel travail je faisais ça, et je suis tombée à l'article femme sur une citation. Il y a bien de la différence entre une femme sage et une sage-femme. Et j'ai trouvé que c'était amusant et ça m'est resté comme ça dans la tête. Et dans la même journée ou la soirée, j'ai écouté les informations et j'ai entendu un homme politique qui disait une phrase, la politique du pire est la pire des politiques. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, c'est marrant, entendre deux fois la même figure de rhétorique, une figure de style dans la journée, une figure de rhétorique qui a un nom très savant qui s'appelle le chiasme. Et j'ai trouvé ça rigolo, je me dis, tiens, je vais les noter parce que c'est curieux, je vais voir combien de fois ça apparaît, enfin ça m'a attiré l'oreille. Et j'ai pris un carnet et j'ai noté le chiasme de Furetière, j'ai noté le chiasme de l'homme politique, et puis voilà, et le lendemain j'en ai trouvé un autre. Et j'habitais dans le Berry, et en prenant ma voiture en sortant, j'ai remarqué sur le bord de la route le panneau qui annonçait le croisement suivant. Tout bêtement, j'étais passée devant pendant 15 ans, sans le regarder plus que ça. Et chiasme, le mot chiasme qui est un mot grec, signifie croisement. Et il désigne donc une figure de rhétorique, une figure de style dans laquelle les mots sont croisés, hein, la politique du pire et la pire des politiques, c'est-à-dire c'est une forme ABBA, mm-hmm. et on a appelé ça en grec le croisement. Mais ça désigne aussi chiasma, le chiasme, quelque chose qui est à l'intérieur de l'œil, un croisement de nerfs optiques qui permet la vision binoculaire. Et d'un seul coup, ça m'a mis en relation quelque chose qui est purement, enfin, livresque, qui est dans les traités de rhétorique anciens, et une évidence qui était de regarder le paysage et de dire, tiens, je vois un X dans le paysage, un chiasme. Et je l'ai photographié. Et à ce moment-là, je me suis mise à en voir partout, des X dans les échafaudages, dans des X en tag, enfin tout ce qu'on veut dans toutes les constructions possibles. Et j'ai commencé à faire ces deux collections, c'est-à-dire une collection de citations de tous les chiasmes que je trouvais au cours de mes lectures, que j'entendais dans une émission à la radio, que je lisais. Et à côté de ça, des photos que je centrais généralement sur l'X que je voyais, qui pouvait être en métal, en bois, n'importe quoi, un X dans le ciel tracé par deux avions qui se croisent. Et j'ai fait comme ça des centaines de photos. Et ça dure depuis 1994, donc une quinzaine d'années, durant lesquelles j'ai accumulé énormément de choses et je me suis prise de passion pour ce symbole et pour ces collections. Alors donc, c'est ce que nous allons montrer au CIPM, une double collection qui met en rapport deux choses a priori qui n'en ont aucun. C'est-à-dire des photos de paysages dans lesquelles on voit à un moment donné un élément en X, et des citations d'auteurs. Et je m'intéresse beaucoup au rapprochement, justement, entre le texte et l'image, c'est-à-dire en quoi une phrase, qu'est-ce qu'elle déclenche ? Que déclenche une phrase par rapport à une image ? Bon, c'est la grande question de la légende d'une image. Est-ce qu'on met une légende dessus, laquelle on va mettre ? Et quand c'est quelque chose qui est fondé sur un... simplement une structure, enfin une remarque de structure, c'est-à-dire de croisement. Donc deux choses qui n'ont strictement aucun rapport. Et c'est provoquer une sorte de télescopage, provoquer une réaction pour la personne qui regarde et se dire « Tiens, qu'est-ce que je dirais finalement sur cette image et qu'est-ce qu'elle fait ?» Et ce qui a été très très important dans cette démarche, bon, je n'étais pas du tout partie pour en faire une œuvre, c'était simplement une activité comme ça, au hasard de mes déplacements. Et c'est après que j'en ai fait, disons, une sorte de construction. Mais c'était essentiellement des collections. Et donc, je montre des collections. Mais ça m'a permis d'entrer dans le paysage. Et ça a modifié, en quelque sorte, mon écriture. C'est-à-dire, bon, par exemple, le poème infini, qui était vraiment un travail sur la langue. Je suis entrée dans le paysage par des formes en X. Et à la suite de ça, j'ai écrit plusieurs livres qui sont fondés justement sur la perception du paysage et qui insèrent des images photographiques sur le paysage.
Donc vous êtes sorti du texte pour la vue, pour le motif, pour regarder ce qu'il y avait à l'extérieur du texte. Et dans ce paysage-là, vous avez trouvé encore pas du texte, mais des lettres, ou une lettre, qui était un dispositif qui vous a permis d'accumuler des objets pour faire après une composition et une œuvre. Oui. C'est un peu quand même dans la manie de la lettre.
De la lettre et de l'accumulation, ça c'est clair.
Et de l'accumulation. Et vous avez un espèce de protocole de travail qui se base un peu sur... vous essayez de chercher un dispositif, vous y réfléchissez, ça part pas nécessairement du texte. Non. Ça peut aussi partir du visuel ou du plastique, oui. Et après revenir vers le texte. Et à partir du moment où vous avez un dispositif, vous pouvez faire une œuvre monstre ou une œuvre assez importante, une accumulation et après une composition.
Mais le dispositif, il n'est pas préexistant. Ce qui se passe, c'est que bon, je fais pas beaucoup de différence entre ce qu'on pourrait appeler la vie et l'œuvre, pour parler en termes un petit peu. C'est assez banal de dire ça, mais je veux dire, c'est une activité quotidienne et presque permanente, c'est-à-dire une sorte d'acuité du regard, et bon, de marcher, de photographier, et on accumule, mais ça peut prendre de 10 ans, 15 ans. Mmh. J'ai fait un autre travail à partir de la photo, qui a commencé par la photo, J'ai photographié pendant une année et après j'ai gardé les photos pendant 2 ans dans un tiroir jusqu'à ce que une évidence se dessine.
Qu'est-ce que vous avez photographié pendant
Par exemple, ça c'est un livre qui est publié chez Tarabus qui s'appelle 64 poèmes du ciel et de la terre et dont nous avions fait une exposition au CIPM, je crois, en 2005, pardon. Mmh. Et j'habitais un endroit du Berry et dans lequel, en bas, j'habitais toute une colline, disons, et en allant en bas de la colline, il y avait un étang et je voyais la colline qui était en face. Et cette colline en face, il y avait occupé, il y avait la portion de la colline, il y avait le ciel qui se détachait, et à la limite de la colline et du ciel, il y avait une petite rangée de piquets et de barbelés, puisque le paysan du coin mettait des vaches ou faisait pousser du blé et protégeait son champ. Et donc, j'avais commencé déjà mes études de chinois et j'avais bien approfondi déjà la philosophie chinoise. Et un jour, en passant, mais je veux dire donc un paysage que j'avais déjà pratiqué depuis au moins depuis les années 75 ou quelque chose comme ça. Donc depuis très très longtemps, que je connaissais vraiment par cœur, mais sauf qu'il y a toujours quelque chose à un moment donné qu'on n'a pas vu dans un paysage. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ce paysage-là, c'est vraiment emblématique. D'abord, j'y vois la forme de la terre, parce qu'il y avait cette colline qui était légèrement arrondie. Et c'était en même temps un des signes chinois, un des premiers signes chinois, avec 3 traits, c'est-à-dire un trait qui représente le ciel, un trait qui représente la terre en bas, et au milieu, c'est la présence de l'homme. Et c'était les fondamentaux, enfin, de la cosmologie chinoise, ces trois strates. Et le roi, quand on écrit même le caractère roi en chinois, c'est un trait vertical qui relie ces 3 traits à l'horizontale parce que c'est lui qui assure l'harmonie entre le ciel, la terre et l'homme. Donc c'était un caractère très très fort, c'était très très puissant. Et à ce moment-là, j'ai ressorti les photos que j'avais faites. Ces photos, je m'étais toujours mise, j'avais planté un puits en terre et tous les jours où j'étais là, du matin au soir, ça dépendait, j'ai choisi différents moments dans la journée. Je partais avec un petit appareil photo, je mettais un pied de chaque côté du piquet et je photographiais la colline que j'avais en face. Donc avec à peu près la moitié de l'image, la moitié du cadrage sur la colline, l'autre moitié le ciel et puis ce petit... Alors j'ai fait des photos à la tombée de la nuit avec des couchers de soleil et des nuages rougeoyants. J'ai fait des photos sous la neige, différents dans la brume. Et donc c'est toujours le même paysage. Et en fait ce paysage n'est jamais identique évidemment parce qu'à cause de la saison, à cause de l'heure, à cause de la perception qui est tout le temps modifié, le surgissement au printemps, les premières feuilles sur les arbres, etc. Et donc, j'ai gardé les photos et le jour où j'ai vu enfin cette colline comme un caractère chinois, à ce moment-là, j'ai eu l'idée du texte qui était en rapport avec un livre chinois que vous connaissez peut-être, qui est le livre des mutations et qui était le premier classique chinois et on voit souvent ça dans les magasins un peu bio ou les magasins, ils ont une image avec un cercle et 64 hexagrammes, c'est-à-dire des figures qui sont composées de deux traits continus ou discontinus et qui représentent toutes les permutations possibles à 2 éléments. Et donc je me suis fondée sur ce livre-là pour écrire des textes en 6 vers. Donc là effectivement il y a une structure qui est très forte, mais la structure elle n'a pas du tout été préexistante. Ce qui a été, c'était tous les jours une promenade au bord de l'étang, regarder la colline en face, après faire une photo. Voilà. Et c'est des choses qui s'accumulent, qui surgissent très très lentement parce qu'elles adhèrent totalement à la vie et à la perception. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors tout à l'heure, vous avez signalé mon appartenance de quelques années à l'Oulipo. Et c'est justement à partir de ça que j'ai senti une gêne par rapport à l'Oulipo qui sépare vraiment la forme du contenu et qui se propose d'inventer des formes à mettre à disposition d'autres écrivains. Bon, comme ça existait par le passé, comme ça existait avec la forme sonnet par exemple, et qui a donné évidemment des choses magnifiques, qui a évolué, qui a été... C'est incontestable. Mais je veux dire, le fait que ce soit toujours une partie de ma vie qui soit vraiment insérée... Enfin, qui soit à l'origine...
Un matériau aussi.
Voilà, c'est ouais. Ça, c'est un matériau. Et la forme va apparaître un peu plus tard, mais elle va apparaître comme une nécessité. Enfin, je veux dire, elle va surgir comme ça. Et elle va permettre d'une certaine façon la cristallisation du sens à un moment donné. À partir de matériaux accumulés, à partir d'une expérience, à partir d'une perception.
Oui, vous cherchez des formes qui fassent autant son que sens.
Oui, voilà, tout à fait, oui. Alors, ce que je propose pour qu'on fasse peut-être une petite pause musicale, c'est d'entendre une œuvre, un extrait d'une œuvre de John Cage, parce qu'il a, John Cage a beaucoup travaillé sur le plan visuel et sur le plan sonore à partir du livre des Mutations. Alors, il a essentiellement travaillé à partir de l'aléatoire que ça lui procurait, cette alternance de traits continus, de traits discontinus, et il a écrit en 1951 une musique pour piano qui s'appelle Music of Change et qui est jouée ici dans cet extrait par Martin Jost.
Alors là, on va lire un extrait.
Les 64 poèmes du ciel et de la terre. Donc, c'est ce livre qui est conçu sur le modèle du livre des mutations. Donc, il y a en fait 64, parmi toutes les photos que j'ai faites, j'en ai extrait 64 pour lesquelles j'ai écrit à chaque fois un petit texte. Alors, évidemment, à la radio, on voit mal les photos. Et donc, je décris brièvement la photo. Celle-ci a été prise l'hiver. Les deux champs, cette colline est couverte de neige et le ciel est complètement dans la brume. On voit à peine la différence entre le ciel et la terre. Poussé, prolongé, un temps plus long, jusqu'à son achèvement, début et fin, entre deux, l'hiver a duré. Alors le numéro 48, par exemple, avec une photo d'un ciel rougeoyant juste avant la tombée définitive de la nuit. Le soleil a disparu derrière la colline, le ciel est rouge et la colline elle-même, le champ est tout noir déjà. Le sol ou le sous-sol, en pente douce, gisement, qu'on y plonge, passage vertical, restant clair au couchant.
Alors, vous avez résidé pendant une année à Berlin, invité pour une résidence d'écrivain. Et je voulais vous demander quel a été votre travail. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Est-ce que vous avez trouvé un dispositif? Et quel était d'ailleurs le dispositif de reflet urbain dont on avait parlé auparavant? Mais ma première question avant, ça serait: qu'est-ce qui vous attire en Europe centrale? Vous parliez du Danube, vous appréciez Berlin.
Est-ce que c'est la géographie,
est-ce que c'est la culture?
Il y a quelque chose de la culture, parce que lorsque j'ai séjourné à Vienne, j'y suis partie, j'avais 22 ans. J'étais à l'université de Vincennes et j'avais eu un professeur extraordinaire qui était un Viennois, qui était vraiment un homme d'Europe centrale, nourri de cette culture et qui nous avait transmise, qui m'a permis de rencontrer aussi il était très âgé à l'époque quand je l'ai rencontré, musicien Max Deutsch, qui avait été élève de Schoenberg, qui avait connu tout ce groupe de compositeurs, ami d'Alban Berg, de Webern, et qui enseignait à Paris. Et j'avais assisté à ses cours d'interprétation. Et donc j'ai été déjà nourrie, disons, dans mon éducation de germaniste par ces deux personnages. L'autre professeur que j'avais à Vincennes s'appelait Gustav Kars. Et donc des deux personnes qui étaient deux personnages en même temps, d'une immense culture, et qui m'ont fait découvrir toute cette littérature. Bon, des gens dont on parle maintenant un petit peu aussi en France, mais à l'époque ils étaient totalement inconnus. Des gens comme Karl Kraus, il n'y avait même pas de traduction de Karl Kraus. Et donc voilà, j'ai été imprégnée, ils ont été extrêmement importants pour moi dans ma formation. Je suis entrée dans la musique avec aussi Max Deutsch, qui m'a montré des partitions. Bon, Max Deutsch, il avait vu Johannes Brahms en concert à Vienne. Donc je veux dire, il était petit garçon à l'époque, mais je veux dire tout de même. Donc ça reliait à tout un passé très très fort, à ce passé aussi de l'Autriche-Hongrie, de ces gens étaient nourris de ce passé prestigieux. Hein. C'était quand même le centre de l'Europe à cette époque-là. Et donc avec des œuvres. Et alors Vienne, c'est extraordinaire, parce que Vienne, il y a un aspect de Vienne de petits bourgeois absolument détestables, de gens qui ont toujours des habitudes, enfin qui veulent rien changer à leurs habitudes. Et à côté de ça, il y a des mouvements d'avant-garde, de résistance, d'opposition qui sont très très forts, qui sont, bon, on connaissait dans les années 70, tous les performeurs, le nom m'échappe de ce mouvement, mais enfin, je veux dire, qui ont été reconnus bien plus tard, et qui étaient d'une extrême violence. Et il faut songer que l'Autriche est un pays de 8 millions d'habitants, et qui est un pays littéraire, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a un nombre d'écrivains, de grands écrivains autrichiens, quand on pense que c'est un pays qui a 8 millions d'habitants. Et c'était en même temps, à l'époque, Vienne était à 40 km de la Tchécoslovaquie, de Bratislava. C'était le rideau de fer, c'était un point extrême de l'Europe. Donc il y avait quelque chose de très fort, il se passait des choses, c'était aussi un point de contact. Et alors Berlin, bon, j'ai connu Berlin en 89, et j'y suis retournée régulièrement jusqu'à ce que j'ai cette très belle bourse du DAAD. Et c'est pareil, c'est un lieu qui est situé... On n'imagine pas du tout ça quand on est en France, mais c'est un lieu qui est au cœur de l'Europe, parce qu'ils sont très très ouverts à la fois sur l'Est et sur l'Ouest. Donc c'est vraiment un point de jonction. Et ce sont des cultures, qui me passionnent. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses à découvrir qui sont trop peu connues pour nous.
Donc c'est autant les actionnistes
voilà,
viennois qui vous attirent que les personnages à forte personnalité intellectuelle, que la géographie du lieu que vous essayez d'investir. Oui, le Danube, vous avez essayé de dominer le Danube.
Dominer, c'est un grand mot, mais je l'ai suivi au moins, j'ai suivi son
Danube,
cours. Oui.
Et Berlin, Berlin, vous avez essayé pas de vous regarder dans les reflets des bâtiments, mais plutôt de voir que les reflets signifiaient ou ce qui signifiait dans leur accumulation, dans leur agglutination.
Voilà, quand je suis arrivée à Berlin, j'étais donc là pour un an avec un appartement et je n'avais pas prévu spécialement d'écrire sur Berlin, je ne savais pas. Donc j'ai commencé par partir à la découverte de la ville, comme je l'avais fait à Marseille. J'ai été résidente au CIPM à Marseille et j'ai écrit un livre que je n'avais pas prévu au départ, simplement qui a été nourri par les promenades, mais c'est plus que des promenades, ce sont des déambulations dans la ville, avec un appareil photo, avec un carnet de notes. Et voilà, et les choses surgissent comme ça au hasard. Et bon, les premiers jours à Berlin, j'étais vraiment frappée par ses reflets, parce que bon, ville détruite, elle a été reconstruite avec des immeubles modernes, des structures en acier de quadrillés et évidemment des parois vitrées qui reflètent la ville, alors qui reflètent la ville en la déformant. Et j'ai commencé par faire toute une série de photos des reflets de la ville perçue comme ça à travers ces reflets d'immeubles quadrillés en même temps. Et donc, comme dans le texte précédent que j'ai lu, j'ai eu l'idée d'écrire ensuite des textes qui accompagnent ces photos, non pas qui les illustrent, mais qui fonctionnent, disons, sur le même procédé. Alors, comme c'était des photos et j'allais les porter chez le photographe, je les donnais à faire en format 10-15. C'était des photos noir et blanc que je tirais en 10-15. Et à un moment donné, quand j'ai eu envie d'écrire sur la ville, je me suis dit, mais il faut que je le fasse au format photo. Donc, j'ai décidé d'écrire des petits poèmes qui étaient en 10 vers. Et chaque vers est constitué de mots de 15 lettres. Je n'ai pas le droit de dépasser les 15 lettres. Enfin, il faut toujours qu'il y en ait 15. Donc, c'est le format 10-15, comme le format des tirages. Et donc, j'ai fait une sorte de journal de choses que je voyais comme ça dans la ville, de petites choses, mais que j'ai daté et que j'ai localisé à chaque fois. Alors je vais lire un poème, c'était par exemple la Spree Bogen, le 25 septembre 2000, la Spree Bogen, qui est la boucle de la rivière de la Spree, dans un coude qui était à ce moment-là très très en travaux. Maintenant c'est fini, mais il y avait beaucoup de travaux à cette époque-là. Lourdes d'aisance, grues articulées, leurs mouvements, trop métalliques, aux rives rivières, n'importe le cours, butant d'un détour, pour le héron vrai, sur un pieu envasé, guetteur et affût. Là, il y a quelque chose qui m'avait impressionné à Berlin, à la Bayerischer Platz, la place bavaroise. C'était le quartier où étaient beaucoup de Bavarois et les nazis ont commencé à promulguer des lois. C'était très très insidieux dans la montée du nazisme comme ça à Berlin. On a d'abord fait une loi comme quoi les juifs n'avaient pas le droit d'acheter du savon, après comme quoi ils n'avaient pas le droit d'aller dans les boulangeries, etc. Et il y a deux artistes qui ont ressorti toutes ces lois qui avaient été promulguées à l'encontre des juifs et qui en ont fait des petits panneaux émaillés et qu'ils ont mis à chaque fois dans ce quartier bavarois en face de la boulangerie ou sur un banc, parce que d'un seul coup les juifs n'avaient plus le droit de s'asseoir sur un banc. Et après, les enfants juifs n'avaient plus le droit de prendre l'autobus pour aller à l'école. Donc à la station de bus, il y a une petite pancarte émaillée et qui montre la loi, le texte de loi. Et c'est très impressionnant quand on circule dans ce quartier et quand on lit à chaque fois les petites plaques, de voir à quel point ça peut être insidieux et à quel point, malheureusement, dans nos sociétés, on arrive à des choses qui sont assez proches, qui pourraient dériver aussi, quoi, cette façon de dire, si vous rechargez, bon, ça n'était pas, évidemment, en 2000, j'anticipe, là, je fais un décalage chronologique, mais je veux dire, quand on dit aujourd'hui qu'on est passible de prison ou d'amende parce qu'on recharge le portable d'un sans-papier, ce même genre de loi qui était promulgué quand même de façon très très insidieuse, donc qui prête facilement à la dérive. Alors donc, sur le 21 octobre 2000, à place bavaroise. Désastre des mots, en vigueur de dire, d'interdire, haine, osée quotidienne, dans ses moindres, d'une vie si intime, intimidée de peur, damnée, condamné à naître, n'être pas de la race, un autre. Et par exemple, dans un vieux cimetière, Gericke Strasse, 23 octobre 2000, naissance, la mort, de date grave, et gravée d'après une pierre verdie, de durée son repos, sans que l'attente, elle, s'impatiente de cette éternité. Sur le banc, l'ombre, conique, conifère. Alors ce livre que j'ai écrit sur Berlin s'appelle Toponyme Berlin Et en fait, il est construit de quatre textes. Il est constitué de quatre textes: Dédale, Cadastre, c'est ce que, les extraits que je viens de lire, Jumelage et Panorama. Et pour Jumelage, c'est encore un exemple de ma façon de procéder. Un soir, je me promenais et je suis passée devant l'Institut français de Berlin, là, sur le Kudamm, le Kurfürstendamm, et j'ai vu une petite annonce pour le 14 juillet. Il y avait un restaurant français chez Moustache qui faisait un repas républicain. Et bon, j'ai simplement lu l'affichette comme ça. Seulement, il y avait l'adresse du restaurant en bas, c'était Galvanistrasse. Et il se trouve que je suis née à Paris, rue Galvani. Et ça a déclenché immédiatement, bon, déjà l'envie d'aller voir la Galvanistrasse, à quoi elle ressemblait. Donc le lendemain matin, j'ai pris mon plan de Berlin, j'ai cherché où elle était, et je suis allée Galvanistrasse. Et j'ai commencé, comme ça, à y retourner presque chaque jour, à commencer à faire des photos, à regarder. Et bon, j'ai vécu 17 ans rue Galvani à Paris, et je me suis aperçue qu'il y avait 17 numéros dans la Galvanistrasse. Et donc j'ai commencé à élaborer un petit scénario comme ça. Et je suis retournée chaque jour dans cette rue. J'ai fait des interventions, j'ai dessiné à la craie sur le trottoir un mètre carré témoin. J'avais noté des pavés, j'avais fait des petites actions comme ça et je photographiais le résultat. J'ai vu que les gens, je commençais à connaître les gens du quartier aussi, c'était amusant. Leurs habitudes, et donc il y a quelque chose qui s'est constitué, mais ça a pris des mois comme ça d'être dans le lieu. Donc c'est un petit peu cette façon de travailler qui est très en prise avec l'extérieur, que ce soit le paysage, que ce soit la vie. Bon, idem pour tout ce que j'écris sur la Chine.
Oui, de la Chine, j'allais vous demander, pour passer à une autre géographie, une autre cartographie et une autre langue, vous avez fait donc une thèse sur la poétique ancienne. Ça devait être, c'est assez calé. Et qu'est-ce qui vous avait intéressé par la Chine? Pourquoi aller d'abord vers le chinois et ensuite pourquoi vous diriger vers le chinois ancien?
Alors, l'histoire avec la Chine, c'est aussi une histoire d'enfance. Dans les années, moi je suis née en 1950 et dans les années 60, vers 61, je crois. 71, 60, ça devait être plutôt vers 61. La Chine, il y a eu une brève période du maoïsme où la Chine s'est ouverte au monde, l'époque des sans-fleurs. Et il y a eu, à Paris, dans un grand magasin parisien, il y a eu la première exposition d'artisanat chinois. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est très très banal. Et ma mère m'y a emmené. Et j'ai eu un véritable choc culturel parce que pour la première fois, j'ai entendu de la musique chinoise, donc quelque chose qui était pour moi une totale découverte. C'était des instruments, des sons, enfin bon, quoi, c'était des choses complètement différentes. Et j'ai senti l'odeur de l'encre de Chine. Et ma mère m'a acheté ma première boîte pour faire de la calligraphie avec les pinceaux, l'encre en bâton, une pierre à encre, etc. Et donc, c'était, mon premier choc culturel, tout bêtement. Et j'ai donc gardé, alors étant enfant, les bals costumés, tous les trucs, j'ai toujours déguisé en chinoise avec deux baguettes dans la tête, dans les cheveux. Et c'est resté comme ça, bon, comme ces histoires d'enfants, quoi. Ça marque et on a toujours un petit désir au fond de soi de se dire, tiens, j'ai quand même envie d'aller vers la Chine. Alors évidemment, en plus, bon, ayant eu 18 ans en 1960, ayant quand même côtoyé les maoïstes à Vincennes, la Chine restait un petit peu un modèle. J'ai pas été maoïste, mais je veux dire, elle restait quand même comme un phare, comme ça, quelque chose qui nous éclairait avec l'idée de se dire peut-être qu'il y a quand même une alternative.
Oui, ça doit marquer les maoïstes.
Hein. Ça marque pas mal les maoïstes de Vincennes, ça a marqué, évidemment. Et donc, un jour, il y a eu un déclic. Le déclic, il était en rapport avec Georges Perec. Quand Georges Perec est mort, je suis allée assister à sa crémation au Père Lachaise. Et en rentrant, bon, évidemment, on n'est jamais très bien quand on rentre d'un tel événement. Je me suis dit, bon, il n'y a qu'un moyen, c'est d'essayer de lire quelque chose. Et j'avais acheté, quelques semaines auparavant, le livre de François Cheng sur la poétique chinoise, la poésie chinoise, qui était sortie au Seuil. C'était l'année de sa publication, je pense. Et donc, j'ouvre ce livre comme ça, en me disant, bon, il faut que je me sorte de mes idées noires. J'ouvre, je tombe sur une phrase. La première phrase que je lis comme ça, au hasard d'une page, c'était qu'en chinois, il était très facile de faire des palindromes. puisque la langue, bon, il n'y a pas de grammaire en chinois, il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien, donc c'était très très facile. Et là je me suis dit, c'est pas possible, c'est un clin d'œil de Georges, il a écrit le plus long palindrome en français. Donc j'ai dit, puisque c'est ça, j'apprends le chinois. Donc je sais, c'est une heure après l'enterrement de Georges Perec que j'ai décidé d'apprendre le chinois. C'est tout à fait ahurissant. Et je suis allée, effectivement, m'inscrire, me renseigner d'abord à l'école des langues orientales. Et je me suis inscrite et j'ai commencé à apprendre le chinois à 33 ans. C'est pas la première jeunesse. Et toujours pareil, sans savoir, sans but précis, sinon que d'apprendre la langue. Et puis bon, au bout de 2 ans, j'ai fait le premier voyage en Chine. Et puis bon, là, j'ai été accrochée au-delà de tout. Et alors pourquoi je me suis intéressée à la poésie ancienne, puisque précisément, c'est le premier... Bon, j'ai travaillé sur un palindrome, disons. C'est plus complexe que ça en chinois, parce qu'il n'y a pas 2 sens de lecture, mais davantage. Et donc, qui a été écrit par une femme en 350 de notre ère. Et donc, qui est sans doute un des chefs-d'œuvre du palindrome dans la littérature mondiale, quoi. Et donc, pour moi, ce texte était extrêmement moderne. Et en fait, si j'ai pu le reconstituer, j'ai passé 6 ans à le reconstituer, parce que c'était un texte en 5 couleurs, et qu'il fallait retrouver les modes de couleurs qui donnaient les modes de lecture. Et si j'ai pu le reconstituer, c'est aussi parce que j'avais ces activités en poésie contemporaine, c'est aussi parce que j'avais fréquenté l'Oulipo, c'est parce que j'avais tout ce... C'est ça qui m'a donné la capacité, parce que je l'ai considéré dès le départ, finalement, comme un poème moderne.
Donc on pouvait lire le texte de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut,
et de droite et à gauche, voilà. Ouais. Voilà, il a tout un tas
de lecture. Avez trouvé alors dans la... Et quel lien avec des textes que vous avez écrits par la suite
Eh ben, j'ai surtout, bon, puisque je voyage en Chine depuis 1985, j'ai vu évidemment toute l'émergence de la société de consommation en Chine. J'ai vu évoluer la Chine. J'ai éprouvé le besoin d'écrire... de noter vraiment ces transformations auxquelles j'avais assisté, bon, l'évolution de la société chinoise. Alors j'ai écrit 2 choses. J'ai écrit d'abord un gros livre qui est en prose, Voyage au pays de Chou, parce que quand j'apprenais le chinois, j'apprenais par cœur un poème chaque jour. Et bon, je faisais du jardin dans le Berry, et un jour il s'est mis à pleuvoir, et donc je suis rentrée, alors que je binais mes haricots, je suis rentrée pour apprendre mon poème. Et j'ouvre comme ça une anthologie au hasard pour chercher un poème, et je tombe sur un poème de Lu You. Et ce poète, un poète du XIIe siècle, avait écrit un texte que je vais lire tout de suite, qui s'appelle Le Petit Jardin. Dans le petit jardin, les herbes envahissantes gagnent la maison voisine. À l'ombre des mûriers serpente un chemin. Allongé, je lis les poèmes de Tao Yuanming. Avant d'avoir fini le rouleau, je profite d'une pluie fine pour aller biner les courges. Voilà. Donc, moi, j'étais rentrée pour apprendre un poème de Lu You. Et le poème que j'ai appris est un poème où Lu You racontait que lui était en train de lire un poète qui l'avait précédé aussi de 8 siècles, d'ailleurs, et qu'il était lui sorti pour aller biner ses courges. J'ai trouvé la coïncidence tellement amusante. Comme je connaissais pas ce poète, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner un petit peu sur lui. Et j'ai découvert qu'il était le premier à avoir écrit un journal de voyage en Chine, et qui a influencé après d'ailleurs par exemple les Japonais comme Basho, connaissez les textes de Lu You. Et j'ai pris son journal de voyage que j'ai traduit, mais qui était impubliable en français parce qu'il y a tellement de notes pour expliquer quels sont les gens dont il parle et les lieux que ça devient. Il y a plus de notes que de textes, donc c'était tout à fait impubliable. Mais je me suis dit, je vais plutôt refaire son voyage. Et je suis donc partie 3 mois en Chine et je fais le même voyage qui a donné naissance donc à un livre qui comporte à la fois une anthologie de poèmes que j'ai traduit, 140 poèmes, et qui est en même temps un journal à double entrée, un double journal, disons, du voyage que Lu You a fait d'est en ouest de la Chine en 1170 et du mien sur ses pas. Donc pour revoir à chaque fois les mêmes lieux. Et puis le dernier livre paru, qui est un livre plutôt de poèmes, disons, mais qui est de forme poétique, puisqu'il est en vers de 5 pieds, de 5 syllabes, et qui est le récit, un récit en continu sur les 8 grands voyages que j'ai fait en Chine. Et donc c'est une seule phrase du début jusqu'à la fin, et qui fait des dizaines de milliers de vers aussi. Alors je peux lire un extrait d'une d'un passage au Tibet intérieur. Et justement, en guise d'introduction, on pourrait peut-être écouter la musique des moines tibétains, parce que j'aime beaucoup la façon qu'ils ont d'utiliser leur voix. Et comme on a évoqué l'idée de l'ambitus, voilà un cas très particulier, puisque ce sont des gens qui cultivent les extrêmes, et notamment enfin, dans le grave de la voix, et qui se cassent la voix, qui vont avoir la gorge très, très chaude, et qui vont absorber de la neige, par exemple, pour essayer de se casser la voix. Et ils produisent des sons tout à fait étonnants, avec une voix granuleuse et tellement expressive. Et quand on est dans les monastères et qu'on les entend réciter les sutras avec cette façon-là, c'est absolument saisissant. Vallées, peupliers, les montagnes vierges, comme des plis serrés. La route est couverte de paille, gerbes sèches. Une aire de battage pour les céréales, lancée dès que passe, camion ou auto. La chaussée glissante de ce faux verglas. La voiture dérape, nuages de poussière. Premiers tibétains, les premières bannières au vent des prières. Les premiers stupas, reliquaires sacrés, nichés dans un creux de végétation. Fond de ciel intense, du bleu d'altitude. Un pont suspendu, lancé sur l'eau froide. On quitterait pour un autre pays, voyage étranger dans l'autre voyage. Lame d'eau du Tibet, intérieur conquis, de noms sinisés, désert d'herbe, les yaks. Ici, tout est beau, démesurément. Long chemin de terre, entre murs d'enceinte, édifice enduit, des coloris vifs, gais, du monastère, blabrang, les toitures en or à la feuille, et le rechampi, élégant trapèze, noir mat aux fenêtres, noir brillant des nattes graissées au beurre rance. Les femmes en chapeau, de feutre, et les hommes enveloppés d'une peau de mouton pelisse dont la manche pend bas contre le corps, leur chapelet serré, égrené par cœur, le long des galeries, prières ressassées, faisant grincer l'axe du tambour de cuivre lancé, relancé, bruit de mécanique, moulins verticaux couverts des syllabes de l'incantation. Des pèlerins en marche absorbaient un couple de pasteurs venus des montagnes, l'enfant nouveau-né tenu au chaud dans les bras, depuis des heures pris à grandes enjambées autour du stupa, du socle à gradin, offrande rituelle, afin d'assurer sa vie, protection des divinités, ferveur opiniâtre qui fait oublier, aide à conjurer le très mauvais sort de leur territoire occupé, soumis, région stratégique par force et mesures administratives.
Merci Michel Mettel, c'est provisoirement fini. Et rendez-vous au CIPM pour une exposition de fin mai à fin juin, X Libris, qui lie le langage à la vue, la forme du X.